Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Est-ce que vous allez bien ce soir? Oui? Est-ce que quelqu'un sait, alors il y a la petite musique marrante, mais est-ce que vous savez quelle est cette course? Alors il y en a qui disent marathon. Est-ce que vous savez qu'est-ce qui est plus dur qu'un marathon? Non, qu'est-ce qui est plus dur qu'un marathon comme épreuve? Est-ce que quelqu'un sait ce que c'est? Est-ce que vous avez déjà entendu parler de l'Ironman? Ironman. Ah, il y en a qui ont entendu un petit peu. On parle ici de 3,9 km de natation, donc de nage. Ensuite, vous partez pour 180 km de vélo et vous terminez avec 42 km, donc un marathon. Là, vous êtes en train d'arriver sur les derniers 20 mètres. C'était à Hawaï. Moi, j'étais là-bas en 2011 quand j'ai fait l'école de disciples. Et là, on a deux femmes qui sont en train de terminer cette course. Je ne sais pas leur temps qu'elles ont fait. Je pense que c'est une dizaine d'heures d'épreuve à plus. Et là, on parle d'une course, une épreuve d'endurance. Je ne sais pas si vous avez déjà parcouru quelque chose de long et d'éprouvant, une course qui est longue et éprouvante. Dans un tel cas, que faites-vous pour tenir ferme? Qu'est-ce que vous faites? Peut-être vous êtes déjà posé la question, je vais avoir une potion magique, vous allez peut-être prendre une banane écrasée avec du miel. Je ne sais pas ce que vous faites. Mais de quelle manière allez-vous pouvoir garder la force de rester debout? C'est la question que je vous pose dans une longue course. Et j'aimerais vous rappeler que nous sommes tous dans cette longue course, la vie. Tous et toutes. On est tous dans cette longue course. Et pour certains, elle est faite de plus ou moins grands sommets. Mais on a tous des sommets à franchir. Et certaines fois, c'est vraiment difficile. Une course dans laquelle nous devons apprendre à nous battre avec les bonnes armes pour que Dieu puisse nous soutenir par sa main puissante. On doit apprendre à se battre. Nous avons le choix d'utiliser différentes ressources. Et ces ressources, justement, je dis bien spécifiquement, sont des armes. Parce qu'on se bat pour rester ferme dans notre cheminement spirituel. Mais le choix de l'arme que nous allons utiliser, le choix de la ressource que nous allons utiliser, celle sur laquelle peut-être notre œil va être attiré, ou notre cœur va s'accrocher, aura des fortes conséquences dans notre vie de victoire. Ce soir, j'aimerais justement continuer cette thématique sur la prière que le pasteur Walter a commencé la semaine dernière. Il avait prêché donc au culte à Interéglise le matin, ce message sur la prière, et le soir ici, sur la prière. Et je suis content de continuer sur cette thématique qui est tellement importante, la prière. La prière, c'est intéressant parce que je pense que c'est la discipline la plus difficile que nous, les chrétiens, devons pratiquer. Amen. D'accord, vous êtes tous d'accord avec moi. Qui c'est qui a prié 3 heures aujourd'hui? Personne, d'accord. La prière, c'est une grande discipline et tout chrétien doit la pratiquer. Et il est aussi certain qu'elle demeure l'outil, l'arme la plus puissante lorsqu'elle est conduite par le Saint-Esprit. Ce soir, le titre est très simple. La force de rester debout. C'est à genoux que vous deviendrez fort. C'est intéressant, non? La force de rester debout, et c'est comme ça qu'on l'obtient. Comprendre la puissance de la prière est extrêmement, extrêmement, extrêmement important pour nous. Comprendre l'importance qu'elle a pour notre vie actuelle, mais aussi future. Nous devons réaliser que dans la prière, les victoires se préparent. Les victoires s'opèrent. C'est dans la prière. Et j'aimerais juste vous rappeler que les disciples de Jésus ont demandé qu'une seule chose à Jésus, une seule chose, de leur apprendre une seule chose. La plupart d'entre vous, vous savez laquelle, non? Dans Luc 11, si vous étiez là la semaine dernière, je crois que c'est ce qu'il a dit, si le pasteur Walter au début, je pense qu'il a dû le dire. Jésus, apprends-nous à prier. Il n'a pas dit apprends-nous à faire des poissons grillés, ou apprends-nous à faire des miracles, ou apprends-nous à ressusciter des morts, etc., etc. Apprends-nous à prier. Ils avaient vu et compris que la prière efficace de Jésus était le résultat d'une vie surnaturelle et de puissance pour rester vainqueur dans toute situation. Amen. Et ce soir, j'aimerais vous encourager à prier et découvrir la force qui vous permettra de rester debout. Pour cela, j'aimerais vous amener dans plusieurs textes, qui seront les textes que je vais utiliser pour ma prédication ce soir. Et le premier, c'est un texte que j'aime beaucoup, c'est dans 2 Rois 6, les versets 8 à 17. Le roi de Syrie était en guerre avec Israël. Dans un conseil qu'il tint avec ses serviteurs, il dit « Mon camp sera à tel endroit ». Mais l'homme de Dieu fit dire au roi d'Israël « Attention, ne passe pas à cet endroit, car c'est là que les Syriens descendent ». Le roi d'Israël envoya des hommes se tenir en observation à l'endroit que lui avait été mentionné et signaler l'homme de Dieu. Cela ne se produisit pas seulement une ou deux fois, si bien que le roi de Syrie en eut le cœur tout troublé. Il appela ses serviteurs et leur dit « Allez-vous enfin me dire lequel de vous est partisan du roi d'Israël ?» L'un de ses serviteurs répondit « Personne, mon seigneur le roi, c'est Élisée, le prophète qui est en Israël, qui rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. » Le roi dit « Allez, repérez où il est et je le ferai capturer. » On vint lui dire « Il est à Dothan ». Le roi de Syrie y envoya des chevaux, des chars et une forte troupe qui arrivèrent de nuit et qui encerclèrent la ville. Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin pour sortir de la ville et il vit qu'une troupe la cernait avec des chevaux et des chars. Il dit alors à l'homme de Dieu, « Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous ? » Il répondit, « N'aie pas peur, car ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. » Puis Élisée pria, « Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. » L'Éternel ouvrit les yeux du serviteur et il vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu tout autour d'Élisée. Amen. Cette histoire est incroyable. Le peuple d'Israël est attaqué par les Syriens. Le roi syrien est en train de trouver une stratégie pour aller contre Israël. Et Élisée, dans la prière, reçoit exactement les techniques, les tactiques que le roi de Syrie est en train de prévoir. Il reçoit la révélation. Et ça va aller plus loin, ils vont vouloir s'en emparer. Et là, vous voyez, à ce moment-là, l'ennemi est face à nous. Et le serviteur, on ne connaît pas son nom, le serviteur d'Élisée est là. Il va voir cette grande foule, cette armée, ces chars devant lui, entourer la ville. Et il va dire, on est perdu. Il va faire, t'inquiète pas, il y a beaucoup d'autres choses qui sont en train de se passer. Mais tu dois ouvrir les yeux. Et pour ça, il faut prier. C'est le premier passage que je vous ai lu. L'autre passage, je l'ai noté, il sera plus gros. Jérémie 33, 3, vous le connaissez sûrement. « Faites appel à moi et je te répondrai. Fais appel à moi, je te répondrai. Je te révélerai des réalités importantes et inaccessibles, des réalités que tu ne connais pas. » Amen. Fais appel à moi. 2 Corinthiens 10, versets 3 et 4. Si, en effet, nous vivons dans la réalité humaine, nous ne combattons pas de façon purement humaine. En effet, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas humaines, mais elles sont puissantes, grâce à Dieu, pour renverser des forteresses. Je vous ai dit, nous sommes dans ce chemin qui est la vie, et la vie, c'est un combat. Ce n'est pas forcément tous les jours facile. Et pour ce combat, nous devons nous battre. Nous devons choisir les armes. Et ce premier point ce soir, j'ai pu aussi le noter. Avec quelle arme battons-nous? Qu'est-ce que vous choisissez lorsque vous êtes en bataille? Ici, Paul va nous le dire. Nous vivons dans la réalité humaine. C'est donc 2 Corinthiens 10, versets 3 et 4 que je viens de lire. Mais c'est une réalité humaine. Mais nous ne combattons pas de façon purement humaine. Parce que les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas humaines, mais elles sont puissantes, grâce à Dieu, pour renverser des forteresses. Vous êtes peut-être en train de vous dire, mais pourquoi le pasteur nous parle d'armes alors qu'on parle de vie chrétienne, alors qu'on parle de prière? Pourquoi? Pourquoi parler d'armes alors que nous sommes à l'église, alors que nous parlons de vie chrétienne? J'aimerais juste vous rappeler quelque chose d'important. Lorsque vous choisissez de suivre Jésus, vous entrez, ou j'ai envie de dire le mot, vous enrôlez l'armée de Jésus. Que vous soyez ou pas combattant, que vous soyez pacifique, que vous ayez fait l'armée ou pas l'armée, peu importe, vous entrez dans l'armée de Jésus. Vous passez des ténèbres à la lumière et vous devenez soldat de la lumière. On le chantait tout à l'heure, on est soldat dans l'armée. Et quand vous passez à la lumière, j'aimerais vous dire une chose. Quand vous êtes dans les ténèbres, le diable, il est là, il est confortable, il sait que vous n'êtes pas un danger pour lui. Mais quand vous passez à la lumière, quand vous revêtez l'habit de Jésus, quand vous êtes purifié par le sang de Jésus, alors vous devenez lumière, alors vous devenez un ennemi du diable. Et là, une guerre commence. Et cette guerre, elle n'est pas facile. Et le chemin du chrétien, c'est cette guerre du quotidien. Le diable rôde. Il est prêt à se battre à chaque instant. Et nous, que faisons-nous? Comment combattons-nous? C'est une guerre spirituelle. Et j'ai envie de vous dire une chose, elle est bien réelle, bien que pas forcément visible. Elle est bien réelle. J'aimerais juste vous donner aussi ce verset pour vous rappeler la réalité ici, donc de Éphésiens 6, verset 12. En effet, ce n'est pas contre l'homme que nous avons à lutter, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les souverains de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. Laissez-moi vous dire une chose, vous rappeler quelque chose. Lorsqu'on se bat avec les gens, c'est pas les gens, c'est ce qui se passe dans le domaine du spirituel. Lorsque quelqu'un peut-être vous insulte ou je ne sais quoi, c'est un combat spirituel. La plupart des choses ont lieu dans le domaine du spirituel. Mais elles deviennent réelles parce que l'Esprit agit. Et si ce n'est pas l'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit du diable. Et j'ai envie de vous dire, la vérité, les réalités spirituelles sont beaucoup plus conséquentes et vraies que nos réalités humaines. J'aimerais juste vous rappeler cette chose. Je sais que mes frères et sœurs ici qui vivent en Afrique, je pense qu'ils sont beaucoup plus conscients de cette réalité. En Afrique, les vaudous, la magie noire, elle est exercée parce qu'ils savent qu'il y a une vraie réalité spirituelle. Et ce combat, il est aussi pour chacun d'entre nous. Et qu'on le veuille ou non, on doit se battre et on doit choisir les bonnes armes. Alors on est d'accord de reconnaître que nous sommes dans une bataille et c'est donc pour ça qu'il est important de savoir comment se battre, quelle arme choisir. Je pense qu'on est tous d'accord de dire que la vie spirituelle, la vie du chrétien, c'est pas un long fleuve tranquille. Amen, vous êtes d'accord? Des fois, on aimerait pouvoir se poser. Honnêtement, en tant que pasteur, des fois, j'aimerais que ça soit tellement simple. Mais c'est pas. D'accord? Mais tant mieux. Parce qu'on l'a entendu ce matin aussi, Paul a dû aussi recevoir une écharde pour rester, vous savez pourquoi? Pour rester à genoux, pour rester humble et pour pouvoir rester dans la puissance de Dieu. Parce que s'il était resté debout, il n'aurait pas pu connaître la puissance de Dieu. Et il y a une telle réalité avec ça. Si nous ne passons pas par des épreuves, nous ne pourrons pas connaître la vraie puissance de Dieu. Si nous ne sommes pas affaiblis, nous ne pouvons pas connaître la puissance de Dieu. Dieu cherche à nous révéler sa puissance. Et tant qu'on est debout, on ne peut pas connaître sa puissance. Je suis sûr que beaucoup d'entre vous disiez peut-être, avant d'être chrétien, avant d'avoir dit oui à Jésus, c'était plus facile avant. Avant, j'avais moins de questions, je me posais moins de questions pour certaines choses. Il y avait moins de combats de pensée. Quand vous aviez une pensée sur quelqu'un, ça vous passait à des lustres. Aujourd'hui, tu fais quelque chose et paf, conviction, conviction, conviction. Tu passes le feu rouge, mince, ou tu lèves ta voix, tu es en train de dire « Hé, machin, pourquoi tu m'as passé devant en voiture ?» ou quoi. Vous voyez ce que je veux dire? La conscience qui est éveillée, le combat du bien et du mal a grandi. Et vous dites « Mais je suis jamais en paix, en fait. » Non, parce que tu es toujours en train de marcher sur la sanctification. Et c'est un long chemin. Donc, en fait, on est sans arrêt en train de se battre contre le vieil homme, bien entendu. Mais aussi, peut-être des combats plus réels. Et je ne sais pas ce que vous avez vécu en acceptant Jésus. Mais certaines fois, c'est marrant. Au début, ça va très bien. On parle souvent, et là, peut-être ce n'est pas une généralité, mais on est de nouveau, on accepte Jésus, tout va bien. Vous priez, c'est marrant, il y a tout qui se passe. Et Jésus me bénit, Jésus me bénit. Et après quelques mois, d'un coup, c'est comme s'il y avait un silence ou comme si la foi commençait à être éprouvée. Ça vous est arrivé? Est-ce que ça vous est arrivé? Juste, il y en a quelques-uns, vous pouvez lever la main, ça me rassure, je ne suis pas le seul. Parce que peut-être vous êtes tous en train de prier, tout arrive. Alors gloire à Dieu, je vais venir prier avec vous. Mais pour d'autres, et ça m'est arrivé, c'est comme s'il y avait des nouveaux conflits qui arrivaient. Des personnes qui, tout d'un coup, vous aimaient, vous aiment plus au travail. Une situation financière, bam, qui arrive. Comme si tout s'enchaînait. Il y a des périodes comme ça, vous dites, mais qu'est-ce que je fais? J'aime le Seigneur, je loue le Seigneur, je bénis mon voisin, je prie. Et pourtant, j'enchaîne les catastrophes. Et ça arrive. Et honnêtement, vous savez, des fois, je me dis, mais Seigneur, pourquoi? Quand c'est comme ça, lisez le psaume 73, rappelez-vous. Le méchant, il s'engraisse, il réussit, il dit, et puis Dieu, à quoi bon servir Dieu? Mais rappelez-vous que la pente, elle est glissante et très rapide. Mais c'est vrai, le diable va utiliser toute chose pour nous affaiblir. Et ça va se passer dans les lieux réels, avec vos voisins, avec votre famille. Mais c'est une bataille spirituelle. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on va faire? Comment réagissons-nous face à un souci de santé, un souci de finances, un souci d'appartement? Est-ce qu'on essaye de réagir avec notre intelligence? Si je faisais ça, est-ce qu'on essaye de « je vais appeler un ami, je vais aller faire un emprunt à la banque, etc. etc. » Qu'est-ce que vous utilisez pour faire face à cette épreuve? Quelle arme allez-vous choisir? Vers qui allez-vous aller? Est-ce que vous allez chercher la solution auprès de l'homme, soit vous-même, soit ceux qui sont autour de vous? Quel est votre premier réflexe lorsqu'une situation vient dans votre vie? Quel est votre premier réflexe? Je pense qu'il est très tentant de vouloir réagir avec quelque chose de visible, de trouver une solution par nos propres moyens. Je ne sais pas ce que vous faites, vous, quand vous avez mal à la tête. Le mal de tête arrive, ça dure un peu. Je ne sais pas si la première des choses que vous faites, c'est « j'ai mal à la tête, Seigneur, je t'en prie, enlève mon mal de tête » ou la première des choses que vous allez faire, c'est soit boire un verre d'eau et ensuite prendre un cachet. Mais je dirais que la plupart du temps, on va quand même commencer par prendre le verre d'eau parce qu'on pense que ça aide et puis après prendre un cachet, non? Non, ben, y en a qui commencent par la prière et tant mieux. Mais je ne pense pas que c'est la majorité, Maria. Je ne pense pas, mais tant mieux. Tant mieux. Et c'est ça justement, quel réflexe on a. Et gloire à Dieu, quel est notre premier réflexe? Dans toute situation, qu'est-ce qu'on fait? Comment réagissons-nous? Si on observe la vie de Jésus, et on doit l'observer, parce que c'est notre modèle, Jésus a fait face à tellement de défis. Qu'est-ce qu'il faisait? En tout temps, il priait. Jésus priait, il priait, il priait tôt le matin. Il priait durant toute la nuit, vous pouvez lire en Luc 5, 15 et 16, je vais pas les lire. Il priait beaucoup, il se levait très tôt, avant même que le soleil sorte, il sortait lui pour prier. Des fois j'essaye de me lever très tôt à 5h du matin, mais c'est difficile aussi. Je ne sais pas combien d'heures vous avez besoin de dormir, mais il y a une chose là-dedans dans la réalité, c'est la première des choses, c'est je remets ma journée au Seigneur. Je passe du temps dans la présence du Père. Jésus l'avait compris, lui c'était un réflexe, il le faisait parce qu'il savait que la suite en dépendait. Qu'est-ce qu'il a fait pour choisir les 12 disciples? Vous savez, il a prié toute la nuit. Je ne sais pas si vous avez déjà prié toute une nuit, sans dormir, sans rien, juste prié toute la nuit. Et je ne pense pas que c'est la prière, bon Seigneur, aide-moi à choisir des personnes. Non, je pense que c'était un combat dans la prière. Seigneur, lequel je dois choisir? Judas, je ne sais pas combien de temps il a prié pour dire, ok, je vais prendre Judas. Je ne sais pas, mais vous y pensez avec moi, non? Il a prié toute la nuit. Jésus priait. Et il encourageait bien sûr ses disciples aussi à prier. On connaît Matthieu 6. Quand vous priez, je vais l'utiliser tout à l'heure aussi. Et nous savons que les disciples ont été bien formés parce qu'ensuite, c'est eux qui enseignaient aussi à leurs fidèles de prier. Paul nous exhorte maintes et maintes fois à prier. Si la prière semble être l'arme qui apporte des solutions et qui est fortement recommandée, je suis surpris de voir si peu de personnes la pratiquer. C'est comme si nous avions... En fait, je réalisais, c'est quoi la prière? En fait, c'est comme si devant vous, vous aviez l'arme qui pouvait exterminer tous vos soucis. Vous voyez, elle est là. C'est comme si vous aviez l'arme, elle est ici, puis qu'en fait vous ne la preniez pas. Elle est ici, elle est libre d'accès, mais c'est comme si vous ne voulez pas la prendre. La prière, c'est ce défi-là. Elle est accessible, mais on a tendance à la fuir. Je ne sais pas quelle est votre vie de prière. Personnellement, je vous dis, hein, je suis honnête devant vous, pour moi c'est un combat. C'est un combat la prière. Ce n'est pas parce que je suis pasteur que je passe 5 heures la face contre terre, J'aimerais, mais pour l'instant, je me bats pour aller dans une vie de prière. Parce que justement, c'est ce mystère. Si la prière est l'arme que nous devons choisir en premier lieu, comme disait Maria, en premier lieu, c'est celle que nous devons habituer quotidiennement, constamment. C'est marrant, c'est que c'est aussi celle où il y a le plus de combats. Vous êtes d'accord avec moi? Pourquoi? Et le deuxième point, il est très simple. Prier est un combat. Donc on est mal barré là, vous êtes d'accord avec moi? Parce que si vous comprenez bien, c'est que c'est un peu le comble. Nous faisons face à des combats, et le lieu où se trouve la victoire, c'est un combat pour y aller. Donc on est un peu mal barré, ou bien quoi? Vous êtes d'accord avec moi? Donc on fait face à des défis, tous, et on sait que la clé de notre victoire se trouve à genoux, auprès de Dieu. Et c'est un combat pour y aller. Pourquoi? Parce que justement, il y a une clé ici. Si ce n'était pas un combat, ça serait trop facile. Mais alors, vous savez quoi? On vivrait dans le paradis sur terre. Parce que tout le monde serait en train de vivre la prière de manière intense et passionnée. Et Dieu écouterait et il accomplirait les prières de ses enfants. Parce que c'est ce qu'il dit. Mais la prière est un combat. Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra ouvertement. J'aime énormément ce verset. Déjà, il dit, comme j'ai dit avant, quand tu pries, c'est pas « et si peut-être éventuellement tu prieras », c'est « quand tu pries ». D'accord ? C'est du présent, c'est de l'actif, c'est-à-dire qu'on doit prier. Quand tu pries, va dans ta chambre, ferme la porte. Enferme-toi, mets-toi à part, laisse tout ce que tu fais et viens me retrouver. C'est dans ce lieu que je t'attends, dit le Seigneur. Je ne sais pas si vous trouvez facile de tout arrêter aujourd'hui et de prendre du temps avec Jésus. Honnêtement, dites-moi la vérité, est-ce que vous trouvez que c'est facile de tout arrêter dans vos journées et d'aller et de fermer une porte? Et là, je parle concrètement aussi, des fois, il faut fermer la porte pour que personne ne vous dérange. Des fois, je me dis, faudrait que je mette « ne pas déranger » sur ma porte aussi de pasteur, là, parce que des fois, je me fais interrompre. Alors, ce que je fais, une des premières choses que je fais quand j'ai décidé de prier, soit parce que j'aime bien prier ici dans la salle, parce que personne ne me dérange, je ferme même la porte là-haut, et je ne prends pas mon téléphone. Il faut être fou pour faire ça. Parce que là, vous allez vraiment être dérangé. Mais quand j'ai mon téléphone dans la chambre où je prie, je le mets sur mode avion. Parce que je veux m'enfermer, je veux être à part, je veux rester avec Jésus. Et c'est pas facile. Mais c'est là où Dieu nous retrouve. C'est là où Dieu nous attend. Ça devrait nous donner envie, non? Moi, j'aimerais juste le relire avec vous. Je vais quand même pas essayer d'être trop long, mais j'aimerais quand même juste relire ce verset avec vous. Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là. Est-ce que vous réalisez qu'il est là? Il est là. C'est-à-dire, quand tu viens, il est déjà là. Il est pas « et attends-moi que j'arrive ». C'est « et il est là ». C'est quand même fou. Et il est là, dans le lieu secret. Et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra ouvertement. Qu'est-ce que je vous dis? Que c'est une bataille, vous savez quoi? C'est une bataille spirituelle. On ne voit pas, mais Dieu voit et nous le rendra visiblement. Ça ne vous fait pas penser à la foi, la ferme assurance des choses que l'on espère, la démonstration de ce qu'on ne voit pas, Hébreux 11:1. C'est ça, la prière, c'est s'attacher à quelque chose qu'on ne voit pas qui va devenir réel. Amen. Amen. Si lire la Bible est fondamental pour apprendre à connaître Dieu et grandir dans notre foi, prier est fondamental pour recevoir la direction divine et vivre des victoires dans notre quotidien. Je trouve extraordinaire de dire « invoquez-moi », je le remets ici, c'est justement « invoquez-moi », faites appel à moi, donc priez, criez à moi et je vous répondrai et je vous donnerai des choses cachées. Est-ce que ça ne vous fait pas penser à l'histoire que je viens de lire? Élisée, il faisait quoi? Il priait. Et là, Dieu lui disait, tu sais quoi, le roi syrien, il est en train de penser à ça, ça, ça. Il va faire ça, ça, ça. Est-ce que vous avez déjà, en priant, reçu des révélations de Dieu? Vous n'avez pas besoin de lever la main. Moi, j'en ai déjà reçu plusieurs fois. Pas assez encore. J'aimerais en recevoir quotidiennement. Parce que c'est ce qu'on peut aspirer. Quand vous êtes dans le lieu secret, quand vous cherchez la face de Dieu, Dieu se révèle. Et Dieu vous révèle des choses cachées. Et vous allez recevoir tout d'un coup une parole pour quelqu'un. Et vous allez l'appeler, tu vas dire, ouais, j'ai reçu ça. Comment tu sais? Bah, c'est Dieu qui me l'a dit. Et c'est exactement ce qui se passe. Le roi syrien va dire, mais c'est qui la taupe? Il va dire, mais il n'y a pas de taupe. Il n'y a qu'un homme de Dieu qui prie. Il n'y a qu'un homme de Dieu qui prie. Quand tu te mets dans le lieu secret, que tu invoques ton Dieu, Dieu t'entend et il se révèle à toi. Mais tu dois aller dans le lieu secret. On est très doué à faire beaucoup, beaucoup de choses dans nos journées. Mais combien de temps consacrons-nous à la prière? Si je devais calculer mes 24 heures par jour, j'aimerais savoir combien de temps je consacre à la prière. Alors que je disais, pour préparer ce message, Martin Luther qui a écrit, un tellement grand théologien, 95 thèses, je veux dire, il a traduit la Bible. Vous savez, il passait ses trois premières heures dans la prière. Et il disait, alors que je disais justement sur une petite partie de sa biographie, il disait, plus j'avais des choses à faire, plus je priais. Moi, j'étais là, moi, plus j'ai des choses à faire, moins je prie. Pourquoi? Parce que je suis pris par mes choses. Alors que plus je prie, plus les choses vont se mettre en place toutes seules. Plus je vais avoir l'inspiration. Je commence des fois à le comprendre. Des fois, je comprends que si mon message n'est pas fini, va d'abord prier. Va d'abord prier. Si t'as mal à la tête, prie d'abord. Si t'as un souci quelconque, prie d'abord. Et Dieu va te révéler après qu'est-ce qu'il veut faire. Amen. Et vous êtes aussi d'accord de dire avec moi, quand finalement on décide de prier, c'est comme si toutes nos pensées revenaient à nous. Et que quand on arrive dans le lieu secret, quand finalement on a choisi de prendre 5 minutes, alors là tu penses à tes commissions, tu penses à ton fils, à ta fille, tu penses à tes machins. En fait, c'est comme si l'enfer vraiment se déchaînait pour pas que tu pries. Vous êtes d'accord? Quand finalement tu as décidé dans ta journée de dire, allez, je vais prendre 5 minutes pour Jésus. Quoi, je suis pas en train de vous juger, hein, s'il vous plaît. Hein. Je suis juste en train de dire, quand vraiment tu décides de te mettre à part, je parle pas de prier avant le repas. Je parle pas de prier, Seigneur, merci pour la journée. Amen. Bonne nuit. Je vous parle de vous battre dans la prière, d'accord? J'aimerais vraiment, vous savez quoi, ce soir, moi, mon sujet, quand le pasteur Walter m'a dit, tu veux parler sur la prière? Je dis oui, mais je vais parler de l'arme de la prière, de la bataille de l'intercession. Parce que c'est une bataille. C'est pas juste, Seigneur, merci, au revoir. Intercéder, c'est une bataille. Et ça coûte. Et ça coûte. Epaphras, Colossiens 4, verset 12. Epaphras, qui est l'un des vôtres, vous salue, serviteur de Jésus-Christ. Il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières afin que vous teniez bon. J'aimerais vous dire une chose. Si je devais vous demander quelque chose, s'il vous plaît, battez-vous pour vos pasteurs dans la prière. Premièrement, pour qu'on reste debout pour vous, que le Saint-Esprit nous inspire ce qu'on doit parler et que l'Église tienne dans la justice, dans la parole de Dieu. Et on a besoin que nos frères et nos sœurs se battent pour qu'on tienne. Et vice-versa. Nous, on prie pour l'Assemblée. Moi, je prie pour mes jeunes. Par nom, je mentionne leur nom à Jésus pour qu'ils tiennent le coup. Mais c'est une bataille, je vous le redis. Se combattre, c'est la bataille. C'est pas facile. Aujourd'hui, j'ai l'impression, et c'est une vraie réalité, que beaucoup de chrétiens ne vivent que peu ou pas de victoire et sont accablés par leurs défis. C'est une réalité que je vois et je me dis, mais combien de temps passe-t-il à se battre dans la prière? On voit les défis, on voit les combats, mais combien de temps on passe dans la prière? On a la bonne volonté, mais elle n'utilise pas les bonnes armes. Elle oublie que c'est dans le lieu secret que Dieu se manifeste. Je me suis posé quelques questions. Pourquoi la prière est un tel combat? Premièrement, car elle demande la foi. Quand tu viens prier, tu dois avoir la foi. Ensuite, car elle est une pratique invisible. Quand on prie, il ne se passe pas quelque chose de visible. Nos paroles, elles ne sont pas visibles. Donc c'est une pratique invisible. On va même se dire, mais on perd du temps. Vous êtes déjà dit ça? Moi, ça m'est arrivé, mais pourquoi je prie? Puis après, je dis, non, je dois prier. Des fois, on a l'impression de perdre du temps parce qu'on ne voit pas ce qui se passe. Une autre raison, je me suis dit, c'est car elle ne nous sollicite pas dans le résultat. Et nous, on a envie d'être ceux qui avons choisi, qui avons agi. Hein. Vous avez bien, merci d'avoir changé la couleur du machin. Merci de m'avoir aidé. Quand on prie, on peut juste dire, c'est gloire à Dieu. C'est pas gloire à Nico. Ça veut dire, vous savez quoi, elle ne nous sollicite pas pour le résultat et elle nous rend humble. Elle nous rend humble. Et on n'a pas envie d'être humble. C'est dur. On a parlé ce matin, on veut plutôt être orgueilleux. Et c'est pour ça que Dieu doit nous rappeler qu'il nous affaiblit et nous fait passer par les épreuves pour nous rappeler qu'on a besoin d'être humble et le retrouver dans le lieu secret. Une autre raison, vous savez pour laquelle c'est que Satan n'aime pas que les enfants de Dieu prient. Parce qu'il sait que dans la prière, des grandes choses se passent. Et là vraiment, je vous défie de vous mettre à genoux, et quand je dis ça, c'est physiquement et spirituellement, et de prier, d'intercéder pour ceux et celles qui sont autour de vous, pour vos bien-aimés, pour vos enfants. Je suis le fruit de prière quand même, j'aimerais le rappeler, parce que mes grands-parents et beaucoup d'autres personnes, mes parents ont prié, ils ont eu foi que Dieu pouvait faire un miracle dans ma vie. Aujourd'hui, je suis un miracle qui prêche l'évangile, alors qu'il y a bien des années, j'aurais jamais pensé faire ça de ma vie. Et c'est un combat pour moi, mais je sais que je suis à la bonne place. Alors je vais me battre. Et je crois que Dieu me permettra d'aller plus loin. C'est vrai que la prière est un combat, mais comme nous le savons tous, il n'y a pas de victoire sans combat. Vous êtes d'accord avec moi? On ne peut pas avoir une victoire sans se battre. On doit se battre pour avoir la victoire. Et nous devons être décidés d'y aller avec foi, alors nous sommes sûrs de voir le résultat. Jésus est très clair lorsqu'il parle à ses disciples. Comme je l'ai dit, il dit « quand vous priez », c'est une affirmation, ce n'est pas une éventualité. Nous devons prier. Le peuple de Dieu doit se mettre à prier. Et j'aimerais vraiment aussi, encore une fois, c'est une parenthèse, j'aimerais vous encourager à venir prier dans les réunions du jeudi, à intercéder, vraiment venez intercéder. Avec les jeunes, on a un groupe d'intercession, on commence vraiment à prendre des temps de plus en plus importants dans la prière parce qu'en fait, le Seigneur nous presse à le faire. On a même décidé de passer des temps de jeûne et prière avec les responsables d'intercession parce qu'on croit qu'il y a vraiment un enjeu. Et on croit que dans la prière, Dieu va commencer à accomplir des miracles. Il va amener des gens comme par miracle parce qu'il aura entendu nos cris. Je vous encourage à prier, je vous engage aussi à prier. Et vous verrez, l'Église va changer, votre vie va changer, et Dieu va agir puissamment. Mais une chose est sûre, c'est que lorsqu'on vient dans la prière, on doit porter la croix. Comme il l'a encore dit ce matin aussi, pasteur Jean-Paul. On doit mourir à nos désirs. Ce n'est pas « Seigneur, merci de me donner ci, merci de me donner ça, merci pour ça, merci de me rendre plus fort. » Vous pouvez prier que Dieu vous rende plus fort spirituellement, bien sûr. Mais quand on vient devant Dieu dans la prière, c'est pour prier sa volonté et pas la nôtre. Jésus, vous savez quoi ? Il a eu toutes ses prières exaucées. Pourquoi ? Parce qu'il disait « Mon pain, c'est de faire la volonté de Dieu. Ma nourriture, c'est de faire la volonté de Dieu. Chacune de mes prières est centrée sur le cœur du Père. Je ne prie rien que le Père ne veut pas pour ma vie. » Jacques 4, verset 3, il dit « Vous demandez beaucoup, mais vous ne recevez pas parce que vous demandez pour vous. Vous demandez mal. » Combien de fois, en fait, on vient, « Seigneur, cette fille, elle est trop bien, touche son cœur pour moi, Jésus. Elle est merveilleuse, elle l'aime, Seigneur, Jésus, merci de la convaincre. » Je fais peut-être une caricature, mais c'est à peu près ça. On vient et on détourne, en fait, la volonté du Père qui devient notre volonté. Quand vous venez dans le lieu secret, priez d'abord, Seigneur, que ce ne soit pas mes pensées, mais tes pensées. Je renonce à tout désir de ma chair. C'est très difficile, je vous dis, hein, l'intercession, c'est très difficile. C'est faire abstraction de soi-même et se battre pour d'autres choses. Dieu va déposer des sujets dans vos cœurs et vous allez voir par contre des résultats, je vous promets. Mais ça veut dire que quand vous rentrez dans ce lieu, Nico, il est à la poubelle. Bien sûr, comme je vous ai dit, vous allez être de toute façon édifié en étant dans le lieu secret. Mais c'est la volonté du Père avant tout. Et dans ce lieu-là, je peux vous dire une chose. Vous allez voir des choses extraordinaires se passer, vous allez avoir des révélations sur qui est Dieu, sur ce qui se passe dans la vie d'autres personnes. Vous verrez Dieu agir avec puissance. Et vous donnera et nous donnera la force de rester debout et de tenir ferme dans le combat en attendant la victoire. Parce que parfois la victoire n'est pas tout de suite là. Parfois la victoire tarde. Mais persévérez dans la prière et elle viendra. Ceux qui sont prêts à se mettre à genoux devant Dieu pourront tenir debout devant n'importe quel défi. Alors que je termine, priez nous donne la victoire. Priez nous donne la victoire. Élisée va dire à son serviteur, 2 rois 6, 16, je crois que je l'ai remis ici, voilà, j'ai essayé de bien faire attention. Il répondit, n'aie pas peur, car ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Puis Élisée pria, ouvre les yeux de mon serviteur. Ouvre les yeux de mon serviteur. Dans la prière, les choses invisibles deviennent visibles. Dans la prière, les préparations de Dieu, les ressources de Dieu deviennent visibles. Mais si on ne prie pas, on ne va pas le voir. On va se retrouver devant le combat et on ne verra pas la victoire. Dans la prière, Dieu vous révèle déjà son plan. Mais pour ça, il faut vous battre dans la prière. Et je pense que vous êtes d'accord avec moi. Je pense que beaucoup d'entre nous, on se serait retrouvés comme le serviteur. On ouvre les yeux le matin, on se réveille, et là, c'est une nuée de personnes qui est contre nous. Qu'est-ce qu'on veut faire ? On veut abandonner. Et quand vous êtes face à un défi, la plupart du temps, même quand ça dure, vous n'avez pas envie de dire, « Mais Seigneur, je vais arrêter de prier. Ça ne marche pas. » C'est justement à ce moment-là qu'on doit redoubler de prière. C'est à ce moment-là qu'on doit à nouveau se mettre à genoux et persévérer dans la prière. Le diable, il fait tout pour que justement on s'éloigne de ce lieu. Mais c'est lorsque, vous savez quoi, c'est lorsque le défi s'intensifie que la prière doit prendre racine dans le lieu secret. Je vous encourage à regarder War Room, peut-être vous avez vu, c'est un très beau film, c'est un peu à l'américaine, mais il est quand même beau. Et là, on voit le combat de la prière. Là, elle a vraiment cette salle, en plus, elle a son petit closet, quoi, mais elle prie, elle se bat, et elle a des victoires, et elle en voit. Mais il faut aller dans le lieu secret. J'aimerais juste vous illustrer ça. Je fais du stand-up paddle, peut-être vous connaissez, vous savez, ces planches où vous ramez. Vous voyez ce que c'est, ces planches gonflables. Et vous ramez. Quand il n'y a pas de vent, c'est vachement cool, vous pouvez être debout, vous pouvez ramer, tac, tac, tac. Quand il y a du vent, ça devient vraiment difficile. Et quand il y a vraiment beaucoup de vent, vous savez ce que vous devez faire pour avancer? Tu te mets à genoux, tu réduis ta paddle et t'avances. Il y a moins de résistance. Quand le combat devient difficile, c'est là où il faut vous mettre à genoux. Je ne sais plus, j'avais lu, je ne sais plus quel homme de Dieu, au moment de sa mort, il parlait de son autopsie, ils ont dit que ses genoux étaient tellement abîmés parce qu'il était resté tellement de temps. Je ne sais plus qui c'était, je sais plus si Yemba en dessous. Un homme de Dieu, tellement il avait passé du temps à genoux que ses os étaient abîmés. Moi, franchement, pour l'instant, les miens ne sont pas très abîmés. Non, mais je ne vais pas vous mentir. Je commence à les user un petit peu, mais il y a une réalité. Je ne suis pas en train de vous dire, mettez-vous à genoux, puis ça va tout changer. Là, je vous parle de la dimension du combat. Quand ça devient difficile, mettez-vous à genoux. Et vous allez voir les victoires, je vous promets. C'est exactement ce qui se passe dans cette histoire. Quand on se met à prier, quand Élisée prie, il lui dit « Ouvre les yeux !» Quand vous commencez à prier, les lieux célestes se révèlent à vous et vous voyez déjà le plan de Dieu s'accomplir. Votre persévérance est renouvelée. Dans la prière, vous recevez une parole d'encouragement pour persévérer. Et alors, vous voyez que ceux qui sont avec vous sont plus nombreux que ceux qui sont contre vous. Je vous rappelle une chose, et c'est ce que je disais aussi à un ami, je ne sais plus à quel jeune j'ai dit ça, il y a un tiers d'anges déchus, deux tiers avec nous. Donc je ne sais pas si ça fait des milliards et des milliards, mais en tout cas c'est deux tiers, on en a plus, on a un tiers de plus. Et comme ce matin tu l'as aussi dit, et je relisais ça dans Hébreux justement 1, 14, il dit « Les anges sont là pour nous servir ». Les réalités célestes, mes chers frères et sœurs, elles sont réelles. Et je pense qu'on a besoin de demander au Seigneur « Ouvre mes yeux spirituels pour que j'arrête de me battre contre des choses terrestres qui ne valent rien, mais que je réalise l'ampleur du combat spirituel et de la victoire spirituelle. » Amen. Les plus grandes victoires ont eu lieu dans le lieu secret d'abord. C'est d'abord dans le lieu secret qu'elles se manifestent et ensuite elles deviennent visibles. Vous avez entendu parler de Charles Finet, n'est-ce pas? Les grands réveils spirituels. Est-ce que vous avez entendu parler, peut-être certains vous allez me dire oui, qui a entendu parler de Daniel Nash? Honnêtement, dites-moi la vérité. Est-ce que quelqu'un a entendu parler de Daniel Nash? Une personne ou deux. Donc, sans Daniel Nash, presque inconnu au bataillon, il n'y aurait pas eu de réveil. Daniel Nash, il venait, lui, il a été visité par le Seigneur dans une manière extraordinaire par rapport à... Il a été éprouvé physiquement, en fait, il s'est retrouvé dans une chambre au noir pendant plusieurs mois, et dans ce lieu-là, affaibli physiquement, il a découvert la puissance de l'intercession. Et il a été ensuite lié au ministère avec Charles Finet. Et il allait dans les villes 3, 4, 5, 6, 7 semaines auparavant. Et là, vous savez ce qu'il faisait? Il priait, mais je pense qu'on a rarement entendu des gens prier comme ça. Alors que je disais justement un témoignage, je disais, une dame qui avait entendu Nash et des amis qu'il avait prié avec lui, disait, mais je comprends pas, ces gens sont dans cette chambre depuis plusieurs jours et ils crient et ils hurlent. Il faudrait, et là, cette personne, elle parlait à Charles Finet, il faudrait que vous veniez voir s'ils vont bien. Ils disaient, oui, ils vont bien, ils sont en train de préparer le terrain. Et quand Daniel Nash et son équipe disaient, c'est bon, les lieux spirituels, les principautés sont vaincues. Les principautés sont vaincues, il y a eu un combat spirituel, écoutez-moi bien, la prédication prenait pleinement sa puissance. Et les réveils arrivaient parce que les forteresses étaient tombées. Même il y avait eu des jours dans la prière. Je vous invite à aller voir Daniel Nash, lisez, c'est très intéressant. Je vais terminer. Dieu souhaite manifester sa puissance et nous porter secours. C'est pourquoi il nous appelle à la prière. C'est dans le lieu secret que les victoires se préparent pour votre vie. J'aimerais vous donner quelques citations avant de terminer ce message. Corrie ten Boom, qui a vécu dans des camps de concentration, voilà ce qu'elle va dire. La prière est-elle notre volant ou notre roue de secours? Est-ce qu'elle est notre réflexe? Et je prie encore, Maria, continue justement, et tous ceux qui ont l'habitude. Est-ce que c'est votre volant, ou est-ce qu'au moment où ça ne va vraiment plus, puis que vous avez essayé les médicaments et tout, bon, je vais quand même prier. Ou est-ce que c'est votre volant? Je préférais, écoutez bien, Charles Spurgeon. Je préférerais enseigner comment prier à un seul homme que d'enseigner à 10 hommes la prédication. Vous pourriez avoir 10 prédicateurs, des super prédicateurs, mais s'il n'y en a aucun qui sait prier, vous savez quoi ? Ils ne servent à rien. Et je vous dis la vérité, ils ne servent à rien. Mieux vaut un homme qui prie que 10 prédicateurs. La prière est la plus grande des forces parce qu'elle honore Dieu et elle l'implique dans une aide active. Edward McKendrick Bounds, Splendeur dans le lieu secret, je vous encourage aussi, un homme de prière. Notre course en tant que chrétien ne sera pas sans défi. Et vous savez quoi, vraiment j'aimerais être avec vous alors que je termine. J'aimerais vous rappeler, on est ensemble dans cette course. On est là pour se soutenir, pour combattre les uns pour les autres. J'aimerais vraiment vous encourager ce soir. Priez pour vos frères et vos sœurs. Battez-vous dans la prière. Je pensais encore justement à Victor, à la petite aussi, Livia, merci. À Louis, c'est ce petit bonhomme que tu nous as envoyé aussi. Avant-hier, je priais pour eux. J'étais là, mais Seigneur, quoi, fais quelque chose. À tellement de sujets de prière. Des fois, j'ai envie de pleurer tellement j'ai des sujets. Vous savez, les pasteurs, on a des sujets, des personnes qui viennent. Et à mon avis, vous en avez plein de personnes qui vous disent autour de vous, voilà ce qui se passe. Ah, je viens d'avoir une amie qui a un cancer. Et je viens d'avoir une amie qui a perdu son travail. Je viens d'avoir une amie qui s'est divorcée ou un ami qui a divorcé. Est-ce qu'on est prêt à se battre dans la prière pour ces personnes? Est-ce qu'on est prêt à rester par terre pour eux? C'est ça que Dieu nous demande. Parce que la vie chrétienne, c'est de se battre pour ceux qui ne peuvent pas se battre. C'est de s'encourager. Et c'est ça le plus beau combat. Les intercesseurs. Amen.